Voilà, donc je voulais remercier Conrad et Muriel qui ont participé en fait à la programmation de ce jour. On invite donc les collègues du journal of Digital History.
Donc, problème technique, son ordinateur vient de planter. Donc, voilà. Donc j'ai pas en tête évidemment tous les éléments, mais ce que je sais, c'est que Elisabeth Guérard, c'est comme ça qu'on prononce, ouais, vous êtes développeur hein, sur ces notebooks, sur les journaux digital, ouais, voilà, le journal qui intègre les notebooks Journal of Digital History, je vais y arriver. Et donc Frédéric Lavert, du coup, vous êtes le responsable, hein, du coup, de cette, de l'émergence de ce journal. Donc peut-être je vais vous laisser vous présenter, hein, ce sera plus simple. Et donc, bon, Raphaël va nous rejoindre. Il faut bien, c'est la première de l'année, il faut bien qu'on ait quelques soucis techniques, évidemment. Donc je vous passe la main à Frédéric en premier, c'est ça? Normalement, vous l'avez peut-être même déjà. Voilà, c'est parfait. Et donc du coup, on va mettre nos micros en sourdine pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et on vous laisse la parole pour 20 à 30 minutes, hein, comme vous le souhaitez. Et puis on fera 10 minutes de questions derrière. Merci.
Très bien, je vous remercie. Alors non, je ne suis pas le grand chef. Le grand chef, c'est André Asfikas, pas grave, qui est éditeur en chef. Donc je ne suis que le managing editor. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est le côté éditorial, c'est moi qui gère par définition. Je suis par ailleurs professeur assistant en histoire européenne contemporaine, donc équivalent maître de conférence. Avec une forte orientation aujourd'hui Memory Studies et histoire numérique. Et je vais laisser Elisabeth se présenter.
Oui, bonjour, je suis Elisabeth Guérard. Donc, j'ai rejoint le C2DH, donc le centre d'histoire digitale du Luxembourg il y a 4 ans maintenant. Et donc, j'ai tout de suite, mon premier projet a été travailler sur le journal of Digital History. Donc, il y a une partie de développement et une partie aussi où je suis dans le membre du board du journal, quand je suis en charge de la revue technique. On verra plus tard qu'est-ce que ça implique cette revue technique pour l'instant dans le journal. Donc voilà, je laisse Frédéric reprendre pour présenter le reste de l'équipe. Nous ne sommes pas que deux.
Voilà, donc on présente aujourd'hui tous les deux, mais effectivement on est une équipe. Donc Andreas, que j'ai éditeur en chef, rédacteur en chef d'ailleurs, que j'ai déjà cité, mais nous avons par exemple, mais nous avons beaucoup d'autres collègues qui travaillent avec nous, Robert Beta pour la partie administration serveur, Daniele Guido pour la partie front-end et design, Andy O'Dwyer qui fait le copy editing. Myriam Pfeiffer qui sur le design à nouveau, et Lars Wienecke pour tout ce qui est infrastructure, enfin qui est à la tête de l'infrastructure numérique du C2DH. Et encore ici, manque-t-il un étudiant assistant qui nous a rejoint il y a quelques semaines, et toute l'équipe côté de Breuil-Thor, mais qui est peut-être moins dans la partie opérationnelle et beaucoup moins dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc une présentation rapide du Journal of Digital History. C'est d'abord une revue scientifique internationale qui est en accès libre, dite Diamond Open Access, c'est-à-dire que les auteurs ne payent pas. Même si on doit être la seule revue de Breuter, les auteurs ne payent pas. Avec une évaluation par les pairs, précédemment en double aveugle, aujourd'hui en simple aveugle, et on va expliquer aujourd'hui pourquoi, entre autres. Le cœur de la revue est de permettre l'écriture d'articles à couches multiples, j'y reviendrai, qui permettent à des auteurs et autrices, la plupart historiens et historiennes, mais pas uniquement, de valoriser des recherches sur le passé, dont par les données, data-driven. La revue est exclusivement en ligne, il n'y a pas de version papier, et elle est élaborée avec De Gruyter, aujourd'hui De Gruyter Brill, puisque les deux ont fusionné. Donc, le Journal of Digital History est fondé sur le concept de l'article à strates multiples. Alors, parfois je dis strates, parfois je dis couches. En fait, elle est anglophone, cette revue. Donc, on parle surtout de multi-layered articles, et on ne sait toujours pas exactement comment traduire cette expression en français, mais en gros, il s'agit d'articles qui ont trois couches ou trois strates. Une strate qui est narrative, exposition des résultats d'une recherche, par exemple, le contexte de la recherche aussi souvent. Donc, disons plutôt l'article classique, mais sans la partie méthodologie. La partie méthodologie, elle, ira dans la couche dite herméneutique, où les auteurs pourront également parler des outils numériques qu'ils ont utilisés, mais inclure le code qu'ils ont éventuellement écrit, même si ce n'est pas requis d'avoir écrit le code pour publier dans le Journal of Digital History. Avec, on montrera rapidement la possibilité pour le lecteur de réexécuter ce code et même de modifier dans certaines conditions. Et puis une perspective critique sur les outils utilisés, les outils numériques utilisés, code compris, et les méthodologies utilisées également. L'idée de mettre en place ces articles à couche multiple vient d'une vieille publication de Robert Darnton, The New Age of the Book, dans la New York Review en 1999, où Darnton se demande ce que peut être le livre à l'ère du web. Et il imagine un livre ici en six couches, la première étant le livre tel qu'on connaît, qu'on va mettre sur papier, la seconde, il imagine une version étendue de ce livre avec certains aspects d'argumentaire développé, pas nécessairement de manière séquentielle. Une troisième couche avec la documentation, les sources primaires, du point de vue historien. Une quatrième couche plus historiographique ou théorique, avec éventuellement les discussions autour de cette historiographie. Une cinquième couche qui serait plus pédagogique à destination de l'enseignement. Et puis, une sixième couche qui serait un peu le commentaire autour du livre, donc les rapports, les évaluations, les lettres, les commentaires des lecteurs, leurs lettres, et cette couche chez Darnton pourrait d'ailleurs évoluer au fur et à mesure de la vie du livre. Alors, c'est pas exactement ces six couches que l'on a reprises. Je vous dis, on l'a un peu plus restreint à trois couches, parce qu'il faut encore derrière, non seulement avoir la capacité technique, développer tout ça, mais il faut la capacité humaine. Et les auteurs, en général, quand ils publient quelque chose, les autrices reviennent rarement, assez rarement dessus, finalement. Il faut aussi noter qu'on n'est pas tout à fait les premiers à avoir ce genre d'idée, même si ça n'a pas nécessairement été auparavant formulé de la même manière. En histoire numérique, le grand classique, c'est The Valley of the Shadow, qui est un site web sur une vallée américaine pendant la guerre civile américaine, ce qu'on appelle la guerre de sécession, et qui a des aspects aussi un peu multicouches dans la mesure où on peut aussi aller voir, on peut voir des articles écrits par des historiens et historiennes, mais on peut aussi aller voir les sources primaires, et avec même quelques outils que l'on peut utiliser directement, alors je ne sais pas s'ils les ont maintenus. Quelques outils qui permettaient un peu de travailler directement sur les sources primaires. Okay, d'ailleurs, c'est et William J. Thomas, qui sont les deux fondateurs, ça s'intéresse en fait dans The Valley of the Shadow à l'usage de l'histoire sur un mode hypertextuel et à l'expérimentation. D'une part, d'autre part, c'est plutôt d'ailleurs, Thomas, lui, s'intéresse surtout au fait qu'on peut ouvrir la manière dont les historiens travaillent. On peut l'ouvrir au monde, cette manière de travailler. On peut l'exposer. On peut montrer ce que c'est que l'histoire, que l'interprétation en histoire. Et donc, donner au lecteur la possibilité d'explorer le travail des historiens et historiennes sur le passé. C'est en partie l'idée qu'on veut mettre en valeur avec le Journal of Digital History, mais dans le cas de l'usage des outils numériques dans un, les méthodes numériques dans un sens large. On a, une fois qu'on a cette idée, il faut quand même regarder avec quoi on peut la mettre en œuvre. Donc ça, c'est un peu pourquoi on, pourquoi a-t-on sélectionné les notebooks. On a regardé un peu des projets, pas concurrents, mais disons qui ont essayé d'exploiter certaines particularités du web et de ce qu'on peut faire du web dans l'édition scientifique, avec le web dans l'édition scientifique aujourd'hui. On peut mentionner WordPress et le plugin Common Press, donc ici avec l'exemple du Google Archive numérique, parce que je vous avec Caroline Muller, où on peut, qui donne la possibilité, ce petit plugin, de commenter au niveau chaque article publié ou chaque chapitre publié au niveau du paragraphe. Mais c'est pas nécessairement ça qui nous intéressait. Un autre exemple sont les blogs que l'on connaît bien, qui permettent les blogs scientifiques, qui permettent une interaction avec les lecteurs. Pour le moment, là aussi, on n'est pas vraiment dans l'interaction avec les lecteurs. Un troisième exemple, c'est Public History Weekly, dont la partie la plus innovante est sur l'évaluation par les pairs, puisqu'elle est totalement ouverte. Là aussi, ce n'est pas nécessairement dans ce domaine-là que l'on voulait innover. Ce qui se rapproche plus, c'est la collection aux presses universitaires de Montréal, dirigée par Michael Sinatra et Martello Vitaly Rossati, et où, alors je suis désolé d'avoir mis des exemples qui me concernent directement, mais où j'ai co-dirigé un livre qui s'appelle Expérimenter les humanités numériques, et avec une version papier ou PDF assez courte, et puis une version étendue sur le web avec un site web spécifique développé, des chapitres plus longs, et puis on peut y associer des notes additionnelles, des contenus Zotero, etc. Là, c'était déjà un peu plus proche que ce qu'on voulait, mais par exemple, on ne peut pas exécuter du code là-dessus. Il n'y a pas la possibilité pour le lecteur d'aller voir les outils numériques utilisés et de les tester presque en direct. Je vais quand même vous montrer rapidement ce site web, enfin notre vue. Les articles sont... se présente comme ça. Chaque article, la page d'entrée vers les articles et les numéros. Chaque article a une fingerprint, on reviendra là-dessus tout à l'heure, on la décrira un peu plus. Lorsqu'on clique sur un article, on arrive sur la couche narrative en premier lieu, qui permet donc de suivre finalement une narration assez classique d'un article. Donc ici, c'est un article sur, qui est plutôt méthodologique finalement. Sur les débats autour de la création de l'euro au moment du comité dollar, et où il démontre qu'il y a d'ailleurs un problème d'archives sur ces débats, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des débats qui n'ont jamais été retranscrits, des débats de ce comité. On peut aller sur la couche herméneutique en cliquant soit globalement, en appuyant sur le bouton herméneutique, et puis on va avoir là une vision avec la couche herméneutique en premier lieu. On peut aussi basculer d'une couche à l'autre de manière contextuelle. La bibliographie est intégralement gérée par Zotero. Je pense qu'Elisabeth en touchera un mot à un moment. Et ensuite, surtout, on peut aussi faire la couche données. Je ne l'ai pas encore décrite, mais la couche de données, c'est le jeu de données lui-même et qui est en l'occurrence stocké sur GitHub et de notre côté aussi sur un serveur plus spécifique. Et surtout, on peut ouvrir l'article dans MacBinder, qui est un service externe qui permet de visualiser le notebook. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le notebook, ici, va nous permettre de modifier et de rejouer le code. Alors, ce n'est pas nécessairement le meilleur article ici pour ça, mais dès qu'on utilise, par exemple... du topic modeling, si des auteurs et autrices demandent 250 topics, c'est le cas d'un autre article, on peut en fait changer le nombre de topics demandés, le rejouer, enfin, et rejouer, relancer le code, pour voir finalement, tester un peu les hypothèses des auteurs ou autrices de l'article. C'est ça le grand intérêt. La petite limite, c'est que c'est en ligne, donc si le notebook est un peu trop gros, ou si le code est un peu exigeant, ou si le jeu de données est un peu trop important, on risque assez vite de ne pas pouvoir rejouer le code, mais dans ce cas, on peut aller sur GitHub, où est stocké l'article, et finalement, installer, enfin, cloner le repository chez soi, aller là, rejouer, relancer l'article. Bon. Alors ici, je suis embêté parce que je ne sais plus, mais je crois que c'est le moment où Elisabeth commence à parler.
Alors oui, voilà, donc ce qu'on parlait, un environnement d'écriture composite. Donc, cette question s'est posée assez au début de savoir quel éditeur utiliser. Allons-nous en construire un? Allons-nous utiliser le support des Jupyter Notebooks? Essayer aussi d'enrichir les Jupyter Notebooks en créant aussi nos propres boutons qui pourraient faciliter le tag pour herméneutique, des choses comme ça. C'est vrai que l'environnement des notebooks a pas mal bougé les trois dernières années. On voit avec les initiatives de Quarto, avec Mist, Markdown, c'est-à-dire l'écosystème est de plus en plus mûr. L'idée avait été finalement d'utiliser que juste me remette la slide 12, Frédéric. Donc, l'idée d'avoir utilisé justement ce logiciel qui existait déjà. Donc, il y avait l'idée que bon, ben, il pouvait être facile à apprendre, utilisé à d'autres pour d'autres utilisations, une utilisation pédagogique, comme on a vu, le support avec Google Colab, il était pérenne. On voit, bon, j'ai été assistée à la conférence JupyterCon l'année dernière, on voit les évolutions vers Jupyter Notebook, vers Jupyter Lab, vers des plugins qui se construisent, donc l'écosystème a l'air d'être pérenne. La création d'articles executable, au départ, nous n'avions pas de limitation de savoir si les gens avaient des préférences de langage, donc avec le support de Jupyter, Julia, Python, R. Bon, pour l'instant, nous avons reçu que des articles écrits en Python et en R. Donc, il n'y avait aussi pas de limite par rapport aux humanistes qui pouvaient peut-être certains être plus familiers avec le langage R que le langage Python. Et puis, surtout, la promesse aussi de combiner écriture, média, code et données, le support de IPython Display qui permet en une ligne de code d'intégrer des vidéos Vimeo, YouTube, un tuner audio, une iframe, du HTML, tout ça sans finalement de développement de notre part. Donc ça gardait un environnement flexible et ouvert. La limite de cet environnement flexible et ouvert, c'est qu'il présuppose là donc vous avez sous les yeux c'est le premier slide, la première image que quand on va sur le guide utilisateur du journal Digital History, introduction. Voilà la première image qui apparaît. Donc c'était surtout là aussi en utilisant quelque chose qui n'était pas forcément intégré. On voit tout de suite en regardant les icônes que ça peut présupposer d'avoir une connaissance de GitHub, de Jupyter, enfin Markdown, un langage, l'environnement sur le cloud reproductible MindBinder, Zotero, puisqu'on a, nous avons tout de suite intégrer en fait un plugin qui s'appelait Site2C. Maintenant, nous sommes sur Citation Manager qui permet en fait d'interroger sa bibliothèque Zotero et d'insérer ses références au fur et à mesure du texte. Donc voilà, on parlait souvent de digital literacy. Ça, c'est quelque chose que lors de la première issue qui a été publié, nous avions affaire à des auteurs qui étaient assez familiers, qui étaient familiers de GitHub et Jupyter Notebook. Et là, on se rend compte, donc, quand au fur et à mesure des workshops ou de nouveaux auteurs qui nous contactent, le travail qu'il y a à faire pour proposer. Donc, on l'a fait donc, en proposant une stack, une Docker stack, donc pour les utilisateurs. Donc ici, vous voyez à l'étape 2, donc cette JDA Jupyter Stack. Il y en a une pour les utilisateurs en Python, une pour les utilisateurs en R. Donc ça, ça présuppose aussi d'installer Docker Desktop. Bon, c'est pas forcément évident aussi après d'amener cette notion de conteneur et de virtualisation, même si c'est de plus en plus utilisé. Il y a certains qui viennent, qui ont déjà des environnements qui sont préinstallés, qui sont venus avec Anaconda Navigator. Maintenant, on a aussi pu utiliser lors d'un dernier workshop, lors d'une conférence, une proposition avec CodeSpace. Cet environnement aussi virtuel proposé par GitHub, qui peut être aussi une solution, puisque nous avons des articles qui sont écrits des fois par de plusieurs co-auteurs, donc souvent des fois il peut y avoir un en charge d'une partie plus narrative et l'autre plus la partie technique. Donc ça, c'était cette idée de comment amener progressivement aussi des personnes en donnant des solutions. Donc il y a cette Docker stack qui est là. On a l'idée aussi d'un GitHub template. Je ne sais pas si je peux partager. Si vous pouvez me donner la main pour partager, Sébastien. Voilà, je vous prie. Attendez, donc je voulais juste vous montrer. Donc ici, voilà ce qui c'était cette Journal of Digital History Jupyter Stack, en essayant d'amener un petit peu des aides avec aussi une vidéo maintenant qui est disponible. Non, c'est pas possible. Pardon. Ah. Je vous prie de m'excuser. C'est voilà. Donc, c'est visible.
Oui.
Oui, je vous prie de m'excuser. Donc voilà, là, c'était l'idée aussi d'apporter des templates de dépôts GitHub qui sont là, qui sont déjà structurés avec l'idée de comment collecter déjà la bonne version de Python, comment collecter les librairies, utiliser un article qui est déjà qui est une sorte de template que vous pouvez voir, donc qui contient déjà les éléments qui sont demandés, puisqu'on utilise en fait le système de tags dans les Jupyter Notebooks, qui permet d'identifier certaines cellules ici. Donc la personne peut commencer à écrire en se servant de ce modèle de template. Excusez-moi, je reviens à la. Donc l'idée vraiment de excuse-moi Frédéric, si tu peux me repartager juste si tu peux repartager le slide où on voit toute la pipeline pour installer l'environnement d'écriture. Voilà. Donc ça, c'est un travail toujours au long cours de proposer aussi. On voit au fur et à mesure des workshops, si est-ce que c'est plutôt le support des fois d'une vidéo, d'une session comme ça en one-to-one avant l'écriture. On est là aussi pour donner du support. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les auteurs, en intégrant ces nouveaux outils, certains qui n'avaient aucune pratique de travailler avec l'outil de versionning de GitHub, en comprennent très vite l'intérêt dans la facilitation de leur travail, pour les allers-retours lors du peer review, pour pouvoir retravailler sur leur article, suivre leur versionning. Donc, ça peut paraître on le présente comme ça, un grand investissement d'apprentissage, qui peut être, comme on le propose, comme l'est le développement de manière aussi incrémentale, c'est-à-dire que les personnes, au départ, peuvent utiliser cette partie dans le cloud, puis DocuStack, puis installer. Comme ça, il n'y a pas non plus de... Il y avait cette idée, on l'a vu, de contraindre les gens à des versions de R ou de Python. Certains, en fait, auteurs nous ont soumis des articles où ils ont écrit leur propre package, leur propre librairie Python, avec leurs propres contraintes. Donc, c'est un environnement très ouvert et voilà, avec cet investissement de départ qui peut paraître très important. Donc voilà sur cet éditeur. Alors maintenant, oui, on est. Si on voulait renoter un petit peu, je ne sais pas si Frédéric, tu reprends cette main sur du notebook à l'article. Vous avez juste eu un aperçu de comment on pouvait utiliser les métadatas et les tags à l'intérieur du notebook et après le rendu à l'article. Là, peut-être Frédéric, je te laisse reprendre.
Je vais reprendre. Donc, tu as dit à peu près tout ça. Alors, je parlais peut-être un peu, parce que je ne sais pas exactement depuis combien de temps on parle, puisque je n'ai pas pris note du début de la discussion. Mais disons que pour essayer d'expliquer un peu comment on implémente les différentes strates, on peut repartir un peu de la manière dont on utilise les notebooks sur le site web. Donc le site web du Journal of Digital History n'est pas, comment dire, c'est pas une manière d'afficher des notebooks. Enfin, c'est pas les notebooks directement qui sont affichés. C'est pas un habillage des notebooks ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de notebooks complètement exécutés, puisque l'une des particularités des notebooks, c'est que le résultat du code de chaque cellule ou du texte de chaque cellule, selon la nature de la cellule, est enregistré dans le notebook. Ce qui va se passer, c'est que nous, on parse en fait le notebook et le résultat du parsing va être affiché à l'écran. La conséquence, c'est que, on reviendra à l'évaluation après, c'est que nous utilisons en fait dans les notebooks la fonctionnalité du tagging de chaque cellule. Donc les notebooks sont divisés en cellules. Chaque cellule peut être une cellule de texte ou une cellule de code, donc du texte et du markdown. Chaque cellule de texte, par défaut, va aller dans la couche narrative. Chaque cellule de code, par défaut, va aller dans la couche herméneutique. Mais on peut rajouter des tags si l'on veut que du texte aille dans l'herméneutique, notamment pour expliquer le code ou pour expliquer une méthodologie, ou pour en démontrer les limites. Et on peut taguer une cellule de code, notamment par exemple les cellules de code qui affichent un tableau ou un graphe, une figure. Ces cellules de code, on peut les taguer narratives pour qu'elles apparaissent dans la couche narrative. C'était l'un des défauts des notebooks, c'est que c'est finalement assez linéaire. Mais en utilisant les tags, on peut aller un peu contre cette linéarité du notebook. Alors, comment les auteurs jouent avec les différentes strates, en tout cas avec les deux strates que sont la strate narrative, la strate herméneutique, et ben ça se voit par ces fameuses fingerprints.
Par
chaque empreinte, donc vous avez un cercle. À l'extérieur de ce cercle, vous avez des lignes qui sont en fait qui représentent la couche narrative. Si elles sont noires, c'est que c'est justement des codes de texte de la couche narrative. Si elles sont violettes, c'est que c'est du code. À l'intérieur, vous avez la couche herméneutique. Vert pour du texte, violet pour du code. Plus la ligne est longue, plus la cellule est longue, le nombre de caractères est important. Et ensuite, vous avez des cercles pour les titres, et des ronds, notamment pour les citations bibliographiques. Donc, vous pouvez un peu, c'est une manière quantitative ou basique, mais assez efficace, de représenter les articles. Ça peut servir aussi de table des matières, en tout cas sur la page d'accueil des articles. Et ça permet de voir aussi un peu comment les auteurs jonglent entre les deux couches. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y avait en tout cas au début une manière assez classique d'écrire l'article, donc une première partie narrative, puis ensuite toute la méthode, toute l'herméneutique, le code, etc., puis ensuite retour vers la narration. Alors de plus en plus, on s'aperçoit que les auteurs commencent à passer d'une couche à l'autre. Au sein même du texte. On a même récemment eu un article où on pensait qu'il n'y avait rien d'herméneutique parce qu'on avait rapidement regardé. On a regardé trop rapidement parce qu'on avait regardé que les titres. Et en fait, l'intégralité de sa couche herméneutique sont des paragraphes disséminés tout au long en fait de son article. Et il n'y a aucun titre dans la couche herméneutique. Mais du coup, il y a vraiment un aller-retour dans cet article entre herméneutique et narratif. Et ça commence à être intéressant parce que la grande question des auteurs et autrices, c'est savoir ce qu'ils peuvent mettre dans la couche narrative et ce qu'ils peuvent mettre dans la couche herméneutique. Or, ce n'est pas en fait que chaque article est un cas spécial, mais c'est plutôt qu'il y a différents types d'articles et la réponse varie un peu selon ces différents types. C'est un article qui est très méthodologique. La logique de passage d'une couche à l'autre n'est pas la même que si c'est un article qui est essentiellement sur les résultats d'une recherche. Mais c'est une discussion assez constante avec les auteurs et autrices, de savoir ce qui est mis dans l'autre, enfin ce qui est mis dans une couche et ce qui est mis dans l'autre couche. Je vais peut-être rapidement revenir sur la question de l'évaluation, donc sur l'évaluation technique, Elisabeth y en a parlé. L'évaluation technique est clairement un goulet d'étranglement parce qu'il y a énormément de travail à faire, parce qu'on s'assure aussi que l'article est reproductible, réexécutable, que l'article est exécutable. Et c'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre un passage à l'évaluation simple aveugle. Alors, pour le moment, tous les articles qui ont été publiés l'ont été en double aveugle, mais simplement parce que ne serait-ce que l'anonymisation, puisque GitHub, il faut aussi l'anonymiser, il faut éviter de voir que les auteurs ou autrices ont fait des requêtes sur le repos. Donc, on va passer, puis ensuite, il y a les allers-retours entre le repos des auteurs et autrices et notre repos. Donc, on a organisé un passage à l'évaluation simple aveugle, encadré parce qu'on a mis en place aussi une charte. Éthique à respecter, puisque les évaluateurs connaîtront le nom des auteurs et autrices, donc il y a quand même un peu plus de contraintes éthiques que le double aveugle. Et ensuite, on passe finalement à la partie que l'évaluation par les pairs est une partie qui, pour le moment, est assez classique. Ce qui pose un peu problème dans cette évaluation classique, c'est que l'alphabétisation numérique des évaluateurs et des évaluatrices. Parce que parfois, j'essaye quand même d'avoir des évaluateurs ou évaluatrices qui viennent de l'histoire classique, entre guillemets, qui ne sont pas du tout numériques. Et donc là, ne pas fournir de PDF, sauf vraiment sur demande, leur parler de GitHub, de MyBinder, c'est assez compliqué, mais ils peuvent faire l'évaluation aussi sur de l'article tel qu'il apparaîtra sur le site du Journal of Digital History, mais il faut encore lire en ligne. Et ensuite, il y a le problème de l'évaluation du code. C'est un problème qui se pose dès le départ, mais qui n'est toujours pas résolu, que j'essaye de résoudre en choisissant des évaluateurs ou évaluatrices de manière équilibrée, donc avec toujours un évaluateur ou une évaluatrice qui est capable d'évaluer ce code. Alors,
oui, redire un mot par rapport à la revue technique. Donc là maintenant, on essaie aussi, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites manuellement au départ et en fait avec des collectes d'écueils et de problèmes récurrents qui en sont revenus, on a permis aussi un peu d'automatiser un peu plus cette revue technique. Donc là aussi, on essaie maintenant de pousser à ce que les auteurs aussi soient acteurs de cette revue technique. C'est-à-dire, là, bon, pour l'instant, il y a une action GitHub qui a été mis en place, qu'on appelle le Pre-Fly Action. On aimerait aussi justement que, avant que les auteurs nous soumettent leur article, soit passé par ce Pre-Fly, ce Pre-Check, comme donc la métaphore de l'aéroport. Et donc, voilà, donc on enrichit au fur et à mesure ces actions GitHub qui permettent un petit peu de détecter les URL qui sont mentionnées, si elles répondent ou pas, s'il y a du JavaScript, si les citations sont bien formatées, si le NB convert l'exécution du code tourne, si toutes les librairies sont bien là. Frédéric mentionnait là aussi un étudiant qui nous a rejoint il y a 2 semaines, c'est justement aussi pour nous aider à enrichir cette action GitHub qui produit un rapport, donc un rapport en Markdown pour l'instant qui est un peu à titre indicatif pour l'auteur, mais voilà, qu'on aimerait qu'il soit un peu plus un retour pour lui-même. Mais on le voit aussi dans les pratiques avec l'utilisation du template, on a de plus en plus de gens qui collectent, qui sont conscients de leur environnement d'écriture. Là, on a pu le voir aussi l'évolution sur 3 ans, que c'était au départ de demander les versions, même versions que les gens utilisaient n'étaient pas forcément conscients de ça. Et là, il y a une espèce de voilà. Donc l'évaluation technique, voilà, ça s'arrête vraiment au formatage du code qu'on utilise avec des formateurs automatiques, Black, des choses comme ça, et de l'exécution. Pardon, Frédéric.
Pas de problème. On va songer à conclure pour. Pour avoir les questions, alors notez quand même une fonctionnalité qui a été mise en place à la demande des auteurs et autrices, c'est-à-dire qu'elles ont besoin pour des dossiers, ils et elles ont besoin pour des dossiers de promotion, pour demander un poste, pour postuler de manière générale dans nos universités, ils ont besoin souvent de versions PDF des articles. Donc si vous prenez l'URL de base d'un article que vous rajoutez .pdf, vous aurez un PDF de la couche narrative uniquement. Dans la plupart des cas, en fait, cela suffit aux auteurs et autrices, finalement, pour leur dossier. En fait. C'est essentiellement pour ça, pour faire valoir leur promotion, pour postuler. Comme vous l'avez vu, le Journal of Digital History implique quand même une technicité assez poussée. Une complexité pour la mise en place d'un certain nombre de processus, une fois notamment que l'environnement d'écriture est installé, ça devient, cela dit, pour les auteurs et autrices un peu plus facile. C'est surtout l'installation qui est problématique. On a fait pas mal de workshops avec Elisabeth. On passait 3 heures et au bout de 3 heures, on arrivait parfois à avoir tout le monde avec un environnement qui fonctionnait. Une fois qu'il fonctionne, ça marche plutôt bien. C'est pas plus compliqué finalement que Word. Par contre, il y a un problème auquel on n'a pas, un défi auquel on n'a pas pleinement répondu, qui est celui, un double défi finalement, d'une part de l'archivage de ces articles. Donc la Bibliothèque nationale du Luxembourg va mettre en place un script spécifique pour archiver tous les articles et les différentes couches, etc. Donc d'un côté ceci, de l'autre côté aussi à chaque fois qu'on met à jour une autre plateforme, ce qui peut par exemple être nécessaire si la version notebook de Jupyter Lab change, il faut que l'on regarde quand même si les articles déjà publiés sont toujours compatibles avec cette mise à jour. Donc ça nous est arrivé une fois, mais on avait 6 articles, donc on pouvait les adapter, c'était pas très grave. Donc ça, c'est un autre problème, et on a eu quand même on a mis quand même un certain temps, par exemple, à mettre à jour notre environnement d'écriture vers la dernière version du format notebook et de Jupyter Lab. Mais maintenant, c'est fait, et ça nous a largement simplifié la vie. On va peut-être conclure là-dessus. Vous pouvez évidemment aller sur le site du Journal of Digital History pour lire les articles. Il y a 3 numéros spéciaux qui sont en cours d'élaboration, avec plus d'une quinzaine d'articles qui sont en évaluation à l'heure actuelle, donc plus que ce qu'il y a à l'heure actuelle sur le... Plus d'articles qui sont déjà publiés. Vous ne pouvez plus discuter avec nous sur Twitter ou X, puisque le compte existe toujours, mais nous ne l'utilisons plus. Il existe toujours à titre d'archivage. Et vous pouvez nous contacter via Facebook, ou Skype ou par email, évidemment. Je vous remercie. Nous vous remercions.
Merci beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est assez passionnant. Puis c'est un gros boulot à la fois sur le plan technique, mais aussi pédagogique. Parce qu'on en rendra pas mal de questions d'ailleurs là-dessus. Je pense que c'est aussi des choses qu'on peut discuter avec les autres types de plateformes qui sont un peu sur le même mode de publication avec des markdowns. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre les premières questions s'il y en a. Donc il y a Nicolas Thierry qui nous demande, voilà, l'action de Prévol inclut-elle des vérifications de bonnes pratiques d'accessibilité du texte, comme par exemple la présence d'actes dans les images, ou la bonne séparation fond et forme?
Alors, c'est vrai que là, l'action de Prefly, elle est vraiment au niveau du notebook. Donc, là, comme Frédéric l'a dit, il y a à la fois l'affichage qui est au niveau du notebook, que d'ailleurs l'utilisateur peut contrôler à tout moment en utilisant une fonctionnalité qui s'appelle Preview Notebook. C'est un formulaire où il copie-colle l'adresse URL de son notebook, de son pass, de son chemin, de son notebook GitHub, et il peut voir comment il va s'afficher. Et c'est vrai que là, c'est intéressant à prendre. Ça serait plutôt au niveau du code, du parseur du notebook. Donc vraiment là, le front-end du journal, c'est lui qui gère finalement qui gérerait la présence d'alt dans les images ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ce point sur l'accessibilité, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête, mais ouais, le Prefly, il est vraiment, parce que finalement l'auteur, même si il lui permet à tout moment de regarder le look and feel de son article, mais l'action de Prefly, elle est vraiment pour au niveau du notebook, être sûr que effectivement chaque image qui est à la fois insérée ou générée par le code contient bien aussi les metadata qui permettent d'inclure un label ou des choses comme ça, mais ce n'est pas encore intégré là. Parce que ça, je ne sais pas si c'est vrai qu'on a été peut-être, je ne sais pas si on a été très clair sur ça, Frédéric, que quand en fait on les notebooks aussi pour la partie archivage et des choses comme ça, c'est que on conserve l'output des notebooks, c'est-à-dire que ça nous permet de que quand on affiche à l'écran, on réutilise l'output généré des notebooks. Donc, à ce moment-là, le format binaire des images, des choses comme ça. Mais je prendrai un retour au niveau de l'accessibilité développeur front-end. Mais ouais, l'action de pré-check, c'est vraiment au niveau du notebook. Parce qu'il y a cette double contrainte qu'à la fois aussi que ce soit le notebook soit toujours utilisable en tant que format lui-même, quand si quelqu'un dans MindMinder, donc il faut qu'il soit aussi complet là avec des légendes et qu'il soit aussi répondre aux contraintes pour la display du côté du front-end.
Conrad, du coup, qui avait une question.
Oui, bah, je me pose la question juste au niveau de la technicité de ce processus. Et je me demande, je ne connais pas très bien votre domaine en histoire. Je me demande, donc, si on prend, disons, la discipline d'histoire, puis la sous-discipline d'histoire numérique et la sous-catégorie des chercheurs capables à gérer les outils que vous utilisez, à chaque pas, on perd combien? Quel pourcentage des historiens sont capables de se mettre en empathie au journalisme historique?
En fait, ça se réduit plutôt au pourcentage des historiens et historiennes capables d'accepter une collaboration. Vous avez des articles qui sont écrits par des historiens ou historiennes seuls, ou à deux. Vous avez des articles écrits par un groupe avec un historien, une historienne, parfois deux, qui sont sur le contenu, qui ont une idée, qui ont besoin que quelqu'un leur développe du code, mais qui ne savent pas le faire eux-mêmes, et qui vont s'associer en règle générale avec des gens qui sont beaucoup plus dans les humanités numériques et qui vont qui vont développer en fait toute la partie herméneutique finalement, en tout cas la partie la plus concrète. Ça sont des choses qui marchent pas mal, sont des associations qui marchent pas mal. Quand on va vers l'histoire numérique, en règle générale, il y a quand même une bonne connaissance des notebooks. En tout cas, il y a une ouverture possible vers les notebooks. C'est-à-dire que c'est pas une fois que c'est installé, c'est pas très compliqué le notebook. Hein. C'est juste des cellules avec du texte, du code dedans, c'est tout. C'est pas finalement pas tant que ça. Et le Markdown. Ce qu'on demande comme Markdown, ça s'apprend en 5 minutes.
Et surtout, Frédéric, me permet de. On a aussi, on a eu les cas, là, c'est encore en peer review, d'historiens qui viennent de l'histoire orale et qui. Là aussi, la promesse du support, de support multimédia. C'est-à-dire que là, c'est un article qui permet d'insérer des fragments d'histoire orale en une ligne de code avec un fichier MP3 et d'avoir un trainer et d'avoir après la transcription d'un dialogue. Donc là, c'était vraiment quelqu'un qui se disait, qui a commencé vraiment de rien. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi pour moi, un apprentissage un peu incrémental, c'est-à-dire qu'au départ, GitHub, on peut l'utiliser par la version en ligne, en utilisant le drag and drop, en mode un fichier. On a vu au départ des gens qui renomment même leur fichier version 1, version 2, version 3, que l'on voit au fur et à mesure que c'est par nous les personnes qu'on ordonne qui s'y mettent. Un article là sur le Kinora, la personne était heureuse de pouvoir partager les plans d'une vidéo en 3D d'un appareil qui avait été refait. Là aussi, je pense on veut d'ailleurs aussi insister plus sur cette possibilité d'inclure de nouveaux médias.
Donc ça reste une écriture hypertextuelle. Allez-y, pardon.
Non, mais du coup, c'était pour rebondir sur cette question des cellules au contenu un petit peu plus exotique. Est-ce que dans la communauté, vous avez des gens aussi qui font peut-être un peu de machine learning? Est-ce qu'il y avait... Je sais que nous, dans le cas des notebooks, on peut avoir parfois des questions de délégation de calcul qui posent des problèmes aussi pour de la reproductibilité. Est-ce que ça, c'est des usages que vous avez potentiellement ou vous pourriez avoir potentiellement dans la revue?
Oui. Oui, non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Je pense qu'il y a déjà des articles qui font appel à du machine learning. L'un des problèmes, enfin, le problème, c'est la limite en termes de mémoire des notebooks. C'est plutôt ça, en fait. Et là, il y a parfois des éléments où il y a des scripts qui ne sont pas dans le notebook et qui sont appelés par le notebook ou qui sont juste mentionnés dans le notebook et qui préparent un peu les données ou qui... Tout le code n'est pas nécessairement dans le notebook parce que parfois c'est trop gros. Donc ça peut être aussi par exemple du machine learning qui fait appel à des serveurs de calcul et ça effectivement on ne peut pas faire. Ce serait trop complexe en tout cas pour le moment. Un autre problème... Enfin, c'est pas un problème, mais disons qu'il y a au moins un article qui fait appel à un système d'IA générative, et là, il faut des codes d'accès si on veut rejouer le code du notebook. En l'occurrence, c'est OpenAI. Donc, forcément, il y a des choses qui se passent en dehors du notebook. Ouais, il y a pas trop le choix. Ne serait-ce que en raison des limites techniques du notebook, à un moment. Ils ne peuvent pas être trop gros non plus, ou parce qu'il y a appel à des services externes, y compris de calcul. Je ne pense pas pour le moment qu'on ait le choix. Tout comme pour la couche de données, pour le moment, on n'a pas trop le choix que d'accepter parfois que les données ne soient pas ouvertes. Sinon, on enlève toute l'histoire contemporaine, en fait. Donc, il y a, là, il y a quand même des concessions à faire, oui.
Ok, merci. Donc, on a plusieurs questions. Une question de Frédéric Vergniaud. Alors, une question sur l'évaluation de la maintenance du code. Avez-vous une action d'optimisation, de nettoyage, de réorganisation du code? Est-ce que le code est évalué comme le texte par des pairs et de manière classique avec des allers-retours entre auteurs et évaluateurs? Effectivement, et puis les langages évoluant rapidement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mises à jour à faire, sinon ça risque de devenir obsolète.
Alors, ouais, plutôt Elisabeth peut-être.
Il y a juste une partie sur l'optimisation, nettoyage, réorganisation du code. Ça, c'est vrai qu'au tout début, je n'osais pas vraiment toucher au code des auteurs. Là, maintenant, parce qu'on a une expérimentation qu'on voulait proposer avec une librairie qui s'appelle Fibi, développée justement par Steve Perp, celui qui maintient Quarko, avec l'idée de pouvoir peut-être donner la possibilité de exécuter le code à l'intérieur du browser tout en se connectant en Mindbinder. Donc, il y a peut-être, voilà, il y a des fois maintenant, en utilisant les formateurs, là, ou en bougeant les commentaires, des choses comme ça, pour pouvoir justement l'exécution aussi séquentielle des cellules ou de même des fois recopier même les imports pour des parties qui sont indépendantes en termes après pour les utilisateurs, que ça soit peut-être plus utilisable pour eux. Mais il n'y a pas cette idée d'évaluer pour l'instant le code autre sur le fait qu'il soit exécuté ou non. En plus, on a aussi des fois des articles qui font appel, donc quand ça va des articles qui sont par exemple de l'import de fichiers CSV pour faire des visualisations avec Plotly, voilà, là ça reste basique. Mais on a aussi, comme je disais, là un article de quelqu'un qui a développé sa propre librairie pour pouvoir détecter la réutilisation d'images dans les vidéos. Bon, là, pour rentrer dans ça, ça demande quand même plus, tu demanderais un temps beaucoup plus long aussi pour cette revue technique. Pour ce qui est la mise à jour des bibliothèques, des choses qui deviennent obsolètes, là, pour l'instant, c'est vraiment la collecte de la version avec le runtime TXT. Encore heureux aussi que MindBinder prend encore aussi le Python 3.7 et avec les librairies qui sont référencées avec les bonnes versions. Donc là, à voir aussi, c'est pour ça c'est intéressant, juste avant qu'on commence la séance, Sébastien m'a donné la référence d'un journal qui faisait des articles avec du code depuis 2011. Voilà, je serais intéressant de voir est-ce qu'ils ont dû quelque part décommissionner des articles, des choses comme ça, un moment où est-ce qu'on garde ça. Ça, on n'a pas encore, je trouve, assez de maturité. Pardon, Frédéric, à toi.
Pas de problème. Pour la question du PDF, on met à disposition un PDF qui est que la couche narrative et qui est assez simple à avoir. Il suffit de rajouter .pdf à l'URL de l'article, qui est disponible aussi sur le site de Dubrovita. Pourquoi on ne fait pas plus? Parce que ça n'aurait pas un grand intérêt. Dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y a plus d'interaction avec le code, par exemple. La couche herméneutique perdrait tout intérêt. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que la couche narrative qui soit dans le PDF. Si on avait voulu dès le départ faire quelque chose accessible en PDF, je pense qu'on aurait fait quelque chose de très très différent.
J'ai eu d'autres personnes qui tapaient du texte après le temps que ça déroule. N'hésitez pas à prendre la parole sur le micro, parfois c'est plus simple. Moi sinon, en termes toujours sur l'infrastructure, du coup, quand vous parlez de calcul, de serveur, c'est hébergé de votre côté ou c'est de l'âge? Ou faites appel à des prestataires extérieurs?
Non, le journal de télévision est hébergé sur les serveurs de l'université au Luxembourg. Hein. Donc, là, maintenu par nous. Hein. Donc, avec aussi avec une Docker stack. Et, bon, on a quelquefois quelques problèmes avec le firewall de l'université. Ça, c'est aussi à ce niveau-là. C'est vrai que je suis surpris. Quelqu'un, je me permets, monsieur ou madame Hoffner, qui me dit que la page est blanche, la page est vide.
Oui, si tu ne veux pas faire jouer le JavaScript, il y a du JavaScript, la page est vide. C'est pour ça qu'on a un problème d'archivage en ce moment qu'il faut qu'on règle avec la BNL. Et qu'il faut qu'on règle aussi en termes de référencement. Mais c'est une question technique qui sera vite réglée.
Et pour en revenir, j'ai aussi hébergé de notre côté. Et pourquoi on utilise aussi le service de MindBinder et pourquoi on n'a pas notre instance Jupyter Hub où on pourrait offrir peut-être. Le problème, c'est que là, la diversité aussi des environnements, des articles. Et pour l'instant, en fait, chaque article nécessiterait son propre Docker container, enfin son propre environnement. Et donc là, pour maintenir ça et puis pour veiller à ce que ça soit toujours accessible, pour l'instant on n'a pas forcément les ressources pour ça. C'est pour ça qu'on a le support de MindBinder.
Du coup, maintenant, on vous propose d'héberger votre propre Binder Hub. Mais j'imagine qu'il y a aussi cette question de ressources qui est un peu transversale hein, chez nous. Alors là, dans votre vue, elle est accolée à un institut. Il y a peut-être un financement, forcément, au-delà des salaires, je sais pas trop. Mais c'est vrai que dans les autres vues qu'on a croisées, Erzine et puis Computo, Rescience et tout ça, c'est vrai que bah, il y a la question de la ressource humaine et en temps, parce que déployer à la volée des Docker, il faut quelqu'un hein, qui fasse du care, qui s'occupe de l'infrastructure, et j'imagine que chez vous aussi, non?
Ben, il y a voilà, et après il y a l'idée en discussion aussi à l'échelle du C2DH, si c'est les notebooks ne sont pas que limités au Journal of Digital History. Donc là, bon, si ça se... il y a aussi des discussions qui seraient amorcées aussi dans ce sens. Après, c'est vrai que là, je suis aussi assez à voir aussi avec GitHub Codespace. Je suis surpris aussi de ces solutions qui soient aussi... Je ne consomme que de l'espace disque ou de l'énergie que quand je m'en sers. Donc, chaque utilisateur finalement de GitHub bénéficie de 30 heures par mois pour pouvoir jouer sur un code space avec un template Jupyter. Donc je suis aussi en train de voir que chaque article, chaque dépôt GitHub soit aussi possible d'être utilisé via Codespace. Donc, ça, c'était aussi un petit peu cette voie-là qu'on se tourne, d'utiliser un petit peu les services un peu à la demande. Bon, après, à voir aussi encore avec toujours les selon les cas qu'a mentionné Frédéric, s'il y a les données qui sont possibles ou pas d'être jouées dans un tel environnement.
Et du coup, dans la communauté, justement, parce que c'est quand même des efforts assez titanesques de votre part en termes de stack à la fois technique et humaine, hein, c'est vrai que vous êtes les premiers, enfin je ne connais pas d'autres journaux qui sont lancés dans cette aventure-là, avec en plus une mise en ligne qui est quand même voilà, très travaillée. Comment est la réception à la fois du côté des historiens, mais au-delà de vos collègues, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Est-ce qu'il y a un véritable engouement ou au contraire plutôt une tiédeur, du fait de justement de la complexité.
Non, on a plutôt une très bonne réception, en tout cas dans le milieu des humanités numériques, ce qui est loin d'être le milieu de l'histoire en général, bien évidemment. Alors je dis histoire, mais c'est en relation avec le passé, donc c'est pas obligé d'être historien, historienne pour y publier, il faut publier sur le passé. Et de ce fait, on n'a pas trop de problèmes, notamment à recruter des auteurs pour le moment, auteurs et autrices. Au C2DH même, ça suscite plutôt un grand intérêt, d'autant plus que ça pourra à terme être couplé avec d'autres initiatives, notamment les projets de Sean Takatz et l'équipe de Sean. Mais pas uniquement, ça sert à le notebook devient une infrastructure finalement au C2DH, enfin, en tout cas intègre l'infrastructure générale du C2DH, même si tout le monde n'utilise pas évidemment. Donc on n'a pas de. Comment dire? Pour le moment, en tout cas, on n'a pas de difficulté d'image ou de difficulté avant le journal. Et on a une très bonne réception, disons, dans des milieux plutôt numériques.
Donc le côté revue de code plus revue, ça se pose même du côté des évaluateurs, c'est quelque chose qui finalement, il n'y a pas, vous ne ressentez pas un frein particulier au-delà de l'installation finalement de la stack technique.
Alors, il est arrivé avec des évaluateurs, j'allais dire évaluatrices, mais non, à chaque fois c'était des hommes, refusent parce qu'ils se sentaient techniquement dépassés. Mais par rapport à tous ceux qui ne répondent pas, celles et ceux qui expliquent, et fort probablement à juste titre, qu'ils n'ont pas le temps, c'est finalement pas grand chose. D'autant plus que quand je fais appel à une évaluatrice ou un évaluateur dont je sais que techniquement ils ne pourront pas évaluer le code, je leur précise que cette partie-là, ils ne sont pas obligés de l'évaluer. Qu'il est bien, il est aussi bon d'évaluer la méthodologie en général, c'est pas obligé d'aller voir le code ou la pertinence du choix de tel ou tel logiciel pour appliquer cette méthodologie et ensuite regarder les résultats. Et puis il y aura quelqu'un d'autre pour regarder la partie, l'implémentation plus technique, disons la méthodologie ou la recherche annoncée. Mais ce n'est pas un gros problème pour recruter des évaluateurs ou évaluatrices. Le plus gros problème, c'est le temps qu'on peut aujourd'hui chacun consacrer à une évaluation, en fait. Et je sais vrai qu'à cause de ça, j'ai des articles qui sont à 10 ou 11 ou 12 évaluateurs ou évaluatrices sollicités et toujours pas évalués. Donc c'est un problème général pour les revues aujourd'hui.
J'ai encore une question, je crois qu'après il faut aussi qu'on fasse un petit retour sur justement les questions qu'on peut indirectement qui sont liées à la reproductibilité de ces travaux. C'est si on va dire que la marche est assez grande, relativement grande pour rentrer dans cette revue, est-ce que vous avez des auteurs ou des autrices qui reviennent du coup une fois qu'ils ont fait le premier effort pour publier un deuxième article, c'est-à-dire que l'apprentissage se poursuit en fait, et que la relation avec la revue évolue?
Alors pas encore vraiment. Pour le moment, non. On a une autrice qui a participé à deux articles collectifs. Alors j'attends le second, qui n'a toujours pas été livré, qui a une petite année de retard, mais comme on publie les articles au fur et à mesure, c'est pas toujours très grave. Mais il n'y a pas pour le moment d'auteurs ou d'autrices qui soient revenus vers nous. Par contre, c'est plus facile ensuite de les recruter comme évaluateurs ou évaluatrices. Ça, c'est certain. Et dans un ou deux cas, soit de leur faire intégrer le comité scientifique parce qu'ils ont apprécié, soit c'est le cas d'Anna Smith de nous rejoindre comme dans l'équipe éditoriale. Qui cherche les évaluateurs, qui de gestion éditoriale quotidienne du journal.
Peut-être sur le volet pérennisation, après c'est ma dernière question. Pas de question. Sur le volet, pardon, pérennisation, parce que du coup c'est vrai que c'est aussi un problème. Hein. On a des trucs qui sont vivants avec du calcul, des images, à les pérenniser, c'est ça peut être un petit peu compliqué, ça c'est clair, surtout avec des problématiques de version. Est-ce que vous avez regardé du côté de Software Heritage, j'imagine, peut-être sur de la pérennisation de code, est-ce que vous prévoyez un couplage justement, parce que c'est vrai que ça, même si ça ne permet pas de tout héberger, au moins le code serait peut-être en sécurité de ce côté-là.
C'est une bonne question, d'autant plus que notre collègue Valérie Schaffer a une doctorante qui travaille avec directement avec Software Heritage sur l'histoire du code. Non, on n'a pas pris contact de ce point de vue-là. Pour le moment, l'archivage se fait soit par les PDF, mais c'est que la couche narrative, soit via la bibliothèque, les archives du web à la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Enfin, c'est un archivage de fait. Et bien sûr, tout ce qu'on a, nous, et qu'on conserve sur nos serveurs. Il y a quand même un serveur Dataverse pour les données, il y a quand même différentes petites choses.
J'imagine que les historiens sont vigilants à ce que les traces ne disparaissent pas, de toute façon.
Oui, bon, ce sont souvent les médecins les plus mal soignés. les historiens ne sont pas nécessairement les meilleurs à gérer leurs propres archives. Non.
D'accord. Bon, j'espère que pas trop d'historiens dans la salle. Ça fait un petit peu quand même. Écoutez, merci. Je pense qu'il y a plein d'autres questions. C'est vrai qu'il y a des, là, je vois dans la liste des participants, il y a des listes d'Episcience. C'est vrai qu'on a commencé aussi à prendre contact avec Episcience parce qu'il y avait des volontés de coordonner justement le côté éditorial avec le côté évaluation de code qui pourrait peut-être vous intéresser aussi, je suppose, si vous n'avez pas encore d'outils pour faire ça. Enfin voilà, c'est vrai qu'on est plusieurs revenus, je pense, à graviter autour du T-Notebook. On en a encore découvert des nouvelles dans le cadre des recherches reproductives dans lesquelles on a participé la semaine dernière. Donc on voit que c'est super, il y a plein d'outils qui émergent. Et merci encore pour cette présentation et tout le travail que vous avez fourni. Alors, il y a quelqu'un qui a tapé un boulon. C'est Nicolas Thierry. Donc, effectivement, voilà, plein de réactions encore sur le chat, mais on va essayer de limiter, hein, parce que ça, on fixe une heure, on sait que ça déborde tout le temps, mais et on aimerait bien continuer à discuter. En tout cas, merci à Frédéric et Elisabeth. On mettra le support en ligne, et puis bien sûr, je vous invite à leur poser des questions, et j'imagine que vous êtes preneur de retour, y compris de personnes qui voudraient évaluer des articles.
Et donc, là, on a d'ailleurs un bouton « Become a reviewer ».
Du coup, on va essayer de faire rapide. On voulait quand même aussi discuter 5 minutes avec vous du démarrage de la nouvelle année. Hein. On a eu quelques cafouillages de début, puisque effectivement Raphaël a commencé en plantant son ordinateur ce premier webinaire. C'est pas grave, on s'en remet. C'est les aléas du direct. L'idée, c'est qu'on fasse un petit retour sur la journée recherche reproductive qui avait lieu à Grenoble la semaine dernière, si je ne me trompe pas, et qui était la deuxième, hein, la première ayant eu lieu à Paris. L'idée, c'est d'essayer de fédérer au niveau national sur ces questions justement de la reproductivité. Ce qui était intéressant par rapport à ces journées-là, c'est que ça émerge d'un peu partout. Il y a des gens qui vous disent ça fait 10 ans que c'est de la recherche reproductive, hein, comme des gens qui sont du synchrotron ou des capteurs de sismologie avec des choses très, très bien normées. Et malgré tout, ils ont encore des enjeux. Et puis nous, on arrive, on est à tête. On n'était pas très nombreux. On a présenté le GT Notebook notamment. Et il faut dire, nous aussi, ça nous intéresse, la reproductibilité computationnelle, mais pas que, et on a des choses à dire. Donc on vous a fait un petit compte-rendu sur les notes collaboratives. C'était assez long, hein, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Je ne sais pas si toi, tu voulais dire quelque chose.
Oui, ce que je voulais dire, et de l'aide des collègues qui sont présents, qui étaient là aussi la semaine dernière complétée, en fait, c'est quand même des réseaux nationaux qui se mettent en place un peu partout en Europe et dans le monde, hein, c'est un peu africain ou brésilien, sur la recherche reproductive. Il y avait un focus, en fait, lors de ces journées, notamment à la fois sur des initiatives plutôt de formation, sensibilisation, de communauté en Suisse et ailleurs, en Allemagne, avec des centres dédiés en fait à la recherche de reproductibles. Et le fait que, du point de vue en tout cas du ministère et des représentants du COSO, c'était aussi la relation entre la science ouverte et les enjeux de reproductibilité. Justement une articulation qui n'est pas simple en fait, hein, parce que la science ouverte ne suffit pas à garantir la reproductibilité, et c'est une première étape aussi. Donc moi je vous invite à reprendre bien entendu les éléments si ça vous intéresse dans les petits comptes rendus en cours là, comme vous avez fait dans les notes partagées. Un point qui était intéressant, enfin que moi j'ai relevé parmi toutes les choses hein, qui ont été évoquées, c'est le fait d'interroger finalement les méthodologies scientifiques dans différents champs scientifiques. Hein. En proposant des jeux de données à traiter avec des questions posées à plusieurs communautés, plusieurs laboratoires, etc., a priori, et permettre de vérifier en fait la cohérence et la consistance finalement des méthodes. Et donc, c'est réinterroger, sauf qu'ils appellent ça c'est le terme méta-science que vous avez du mal à comprendre, mais en fait, l'objectif c'était bien de vérifier que les méthodologies employées étaient reproductibles. Et un des aspects, bien entendu, sur lesquels nous travaillons plus spécifiquement, c'est la question de la reproductibilité sur le niveau de la troupe, hein. Et donc la présentation de Dix, qui tourne en fait aujourd'hui au sein d'une petite communauté, mais qui est assez efficace, justement, moi j'y suis pas encore, peut-être c'est pour ça que mon téléphone s'est planté au lancement du webinaire, mais je crois qu'il est intéressant aussi dans la perspective dans laquelle on se trouve, et c'est bien que les historiens soient présents, qu'on réinterroge aussi les pratiques sur lesquelles on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on a présenté notamment du notebook la dernière matinée, c'est qu'on est agnostique, mais évidemment on ne se limite pas à des critères, on réinterroge le langage, et on interroge en fait le notebook aussi dans les perspectives épistémologiques et écologiques. Et c'est pour ça que finalement on a un deuxième webinaire cette année, parce qu'on n'a pas du tout étudié ces questions-là, et qu'on proposera aussi une GIE à l'automne qui est en train de se construire. Voilà. Donc, je ne sais pas si, comme c'est un point de vue très, avec mon propre prisme, si Conrad, Nicolas ou d'autres collègues du réseau souhaitent compléter. Alors, il y a plusieurs Nicolas.
Alors, les prochaines rencontres auront lieu à Lyon, puisque, voilà, je pense que ce sera. Alors il y a eu plein de débats hein, puisque c'est un réseau qui se construit collectivement. Il y a un support du ministère avec un emploi qui devrait être pourvu, hein, qui est toujours ouvert pour de l'animation de réseau. Et je pense que de l'animation de réseau, c'est évident qu'il y en aura parce qu'il y a plein d'initiatives locales. Et ça faisait partie des points importants, hein, l'idée de faire remonter tout ce qui pouvait se faire d'un point de vue local sur ces questions de la reproductibilité. Hein. Sachant que c'est aux gens de faire remonter l'info, parce que voilà, il peut se passer des choses dans les disciplines, et l'idée c'est d'essayer de fédérer tout ça à un niveau national. Donc, évidemment, nous on va continuer à y participer, mais voilà, ça concerne un peu tous les gens qui font de la reproductibilité, et y compris des SHS. C'est important de le noter parce que là il y avait quand même pas beaucoup de SHS, et c'est vrai que les SHS ont aussi des choses à dire sur la reproductibilité au-delà de la reproductibilité computationnel uniquement, même si voilà, c'est dans le cadre des notebooks, c'est évidemment un gros problème.
Et donc, comme Conrad, tu ne prends pas la parole, je vais le dire. Donc, il y a un MOOC sur FUN Université sur la recherche reproductive qui tourne depuis pas mal d'années déjà. Et il y a la seconde version, donc la partie perfectionnement, qui va être lancée, je crois, au mois de mai. Et qui, pareil, hein, présente déjà un certain nombre de données qui ont été présentées lors des journées recherche reproductive du réseau, et qui présente un petit peu qui est intéressé justement par cette démarche-là. Et je crois que ça traverse vraiment la question des disciplines, hein, Conrad, pas seulement, et les pratiques.
Oui, je crois. Voilà, donc la balle est à nous aussi, hein, c'est-à-dire que sur ces questions de réseau, la balle est dans notre camp pour essayer. Ah, Nicolas, peut-être pour rajouter quelque chose.
Oui, c'était juste pour le SHS. Donc la première année, l'année dernière, on avait, je vais dire, même des historiens, mais c'était vraiment passionnant. Donc, surtout, faut pas hésiter Donc, il y a aussi les groupes de travail. En gros, les sujets sont libres. Hein. C'est ce sur quoi les gens ont envie de travailler, s'il y a du monde pour les accompagner. Et puis après, voilà.
Et c'est ouvert à l'international aussi. Hein. Je veux dire, l'idée, c'est qu'il y a eu des présentations qui ont été faites sur des réseaux, comment ça se passait la recherche reproductible à l'étranger. Et évidemment, ben, voilà, je pense que c'est ouvert aussi si vous voyez des choses qui sont intéressantes au niveau européen, au contraire, de les présenter et qu'on s'en inspire aussi pour ce réseau-là.
Et donc, l'histoire, c'est qu'il y a plusieurs réseaux en Europe et à l'international, et peut-être que bientôt on aura des sous-réseaux. Donc voilà, si vous êtes en histoire et que vous voulez parler à tous les historiens qui s'intéressent à la reproductibilité en Europe, normalement on devrait pouvoir faire ça à un moment, enfin, en espérant qu'il y en ait beaucoup. Donc là, les journées, effectivement, c'était un peu plus orienté, on va dire, numérique, bio-info, et l'année prochaine, il y aura d'autres sujets, d'autres personnes, donc on verra bien.
Voilà, et puis pour rebondir pour les gens qui nous ont suivis l'année dernière, il y avait une question de journée d'études autour des GT Notebooks qui traînait, avec l'idée de se voir autrement que par visio. Hein. Le présentiel, c'est bien aussi. Surtout sur une journée et demie, une journée à deux journées plutôt, pour réfléchir sur les différents axes. Hein. Qu'on avait un peu dégagé sur cette question des notebooks. Et on a des premiers financements qui sont tombés. Donc, on devrait pouvoir proposer une journée d'études sur le GT Notebook à la fin de l'année 2024. On n'a pas fait ça en juin-juillet parce qu'il y a les JO. Hein, donc comme tout le monde, on a repoussé ça à la fin de l'année 2024 en espérant que tout n'a pas été repoussé à la fin de l'année 2024. Donc, voilà. En tout cas, on commence à consolider des financements, donc on pourra se voir physiquement et on essaiera d'avoir des discussions à la fois sur l'éditorialisation, sur le volet impact environnemental, écosophie, sur l'épistémologie, on a vu sur la littératie numérique. C'était un peu les quatre axes qui, je crois pas que j'en oublie, avec cette volonté d'avoir une perspective un petit peu sociotechnique, hein, les outils et puis les gens qui les utilisent. On a vu que cette question des gens qui les utilisent, c'était aussi de la formation utilisateur, c'était aussi apprendre toute une stack technique avec des nouveaux enjeux et se poser des questions aussi un peu réflexives, hein, sur les outils qu'on a envie, qu'on manipule, mais qu'on aimerait manipuler. Hein. Donc, ce que vous avez fait avec Jupyter Notebook, avec ce que vous avez fait dans le journal Digital History, on voit qu'on peut créer des surcouches comme ça à des outils qui parlent à la discipline, et justement je trouve que c'est un très bon exemple d'appropriation et de ce vers quoi on pourrait tendre sur cette question de à la fois de littératie numérique et de épistémologie.
En fait, on va pas parler 3 heures, hein, très longtemps, mais pour l'instant, et c'est un work in progress, c'est vrai qu'on a le prisme initial du literate programming, hein, donc la tech et compagnie d'Anna Knut au sein du GT Notebook, que la question de la littératie numérique, Nicolas Sauré nous l'a apporté de manière très enrichissante, et que par ailleurs, le réseau Éveil de Strasbourg interroge aussi les questions écosophiques, et on a pris un prisme par rapport à ce qui a été déjà publié, peut-être interrogé par le biais du langage. Alors on a, dans le train du retour de Grenoble avec Conrad, parlait de langage de spécification. En fait, dès qu'on interroge sous le prisme du langage, parce que souvent on a un langage de programmation, mais on a aussi langue naturelle, on a plein de choses sur lesquelles on pourrait travailler. Et par l'expérimentation, en fait, de l'écriture du code avec, justement, vous avez vous l'herméneutique, la narration, je pense que c'est peut-être un élément qui pourrait, à partir duquel on pourrait tricoter en fait des échanges assez enrichissants et sur lesquels on pourrait s'entendre. Donc pour l'instant, c'est l'hypothèse de travail, c'est celle-ci, mais c'est ce qu'on va vous proposer, un travail collaboratif pour tous ceux et toutes celles qui sont intéressés, bien entendu, à participer à la construction de ces journées-là. Et donc il y aura normalement un sprint, on dit.
Un sprint, on essaiera d'écrire quelque chose.
Ouais. Sur la base de connaissances aussi. Du GT, donc c'est très ambitieux, bien entendu.
Mais on a envie de faire plein de choses pour l'année qui vient, donc voilà, vous êtes tous bienvenus pour participer à ces échanges, quels qu'ils soient, à différents degrés sur les notebooks. Voilà, puis je pense qu'on va clôturer là. On a bien explosé le temps, mais c'est pas grave. On est.
Bon, merci beaucoup en tout cas de votre activité, votre présence et vraiment l'explication très claire de votre travail.
Merci Frédéric, merci Elisabeth.
Oui, tout à fait Frédéric, je suis d'accord. Derrière l'écran. Il est plein, mais il n'est pas plein.
À bientôt. Merci pour l'invitation. À bientôt.
Salut. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.
Au plaisir d'échanger encore.